Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Sophie pour cette invitation à regarder vers l'espérance et à l'espoir renaît. L'espoir renaît, on s'en est rappelé à Noël en fêtant la venue de Jésus sur terre, la venue, l'incarnation de Dieu. Et la prédication de ce matin va peut-être un petit peu aussi s'inscrire dans cette lignée, mais avec un angle un peu différent, vous verrez. Une question pour commencer. Qui parmi vous a déjà eu une fracture à une jambe? Il s'est déjà cassé la jambe? Ouais. Ou un os fêlé, un truc un peu moins grave. Moi j'ai déjà eu ça. Alors quand on a la jambe cassée, quand on a un os fissuré, c'est très douloureux, hein, Christiane, tu confirmes? Ouais. Et puis les moindres gestes, le plus petit geste fait très très mal. Ils sont cassés, ils sont disjoints, ils sont déplacés, ça empêche de faire des choses très simples. Et alors il y a quelques médecins dans la salle. Quand il y a une fracture, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai appris que le terme technique c'est une réduction. C'est ça, Dominique? Tu confirmes? Une réduction. Donc on va mettre une attelle, on va mettre un plâtre. Parfois il faut qu'on mette des vis. Mais l'objectif c'est que l'os se ressoude. Et alors je vous rassure, hein, le texte qu'on va méditer ce matin, c'est pas un texte qui nous parle de chirurgie, de médecine, mais il est quand même question d'un risque de fracture. Et ce sera un texte très court, puisqu'il est constitué d'un seul verset. On va un peu sortir le microscope et regarder un verset à la loupe ce matin. Un verset qui se trouve dans la lettre que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de la ville d'Éphèse, qui se situe aujourd'hui en Turquie. Et par ce verset, vous verrez que Paul cherche à réduire une fracture. Une cassure que l'on peut souvent observer dans nos vies, entre d'une part ce que nous savons de Dieu, et d'autre part, ce que nous faisons pour Dieu. Par ce verset, Paul, il va chercher à unir ces deux aspects de nos vies, à les mettre en relation, et on va le voir, à les mettre en équilibre. Alors, on va lire ensemble ce texte qui se trouve au chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens, c'est le verset 1. Alors, comme j'ai déjà fait il y a quelque temps, quand le texte de la prédication est très court, j'aime bien qu'on le lise dans plusieurs langues. On est une église avec des gens qui viennent de plein de pays différents. Il y a plusieurs personnes dans notre église dont le français n'est pas la langue maternelle. Alors, je ne savais pas qui serait là ce matin, donc j'ai choisi quelques langues. Donc, certaines personnes, j'ai pu les prévenir, d'autres, grâce, je ne l'ai pas prévenu, mais notre frère chanteur en coréen. Donc, je vous propose qu'on lise ce verset en français, et puis après dans d'autres langues, pour faire retentir ces langues qu'on entend déjà sur terre et puis qu'on entendra aussi au ciel tout ensemble. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. » Est-ce qu'une sœur anglophone veut bien lire le verset? Elles sont pas là ce matin? Vas-y alors, Grâce, tu pourras lire deux versets. Merci. Et tu peux continuer? Merci. Amen. Carmela? Merci. Jin Chong. Notre frère. Oui. Merci. Merci. Je vous exhorte donc. Ah, c'est fini. Oui. Merci. Merci. La traduction française que j'ai utilisée, pour une fois, c'est une traduction assez ancienne. C'est celle qui date du milieu du XIXe siècle, qui a été faite par John Darby, un Anglais, mais qui parlait très bien français. Et c'est une traduction qui est assez... il est très proche des mots grecs. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Quels sont les deux aspects que Paul cherche à unir, à relier? D'une part, il y a l'appel reçu par les croyants d'Éphèse, par les croyants de Vendeuvre, par les croyants du monde entier. Et d'autre part, il y a la marche, c'est-à-dire la vie chrétienne. Notre appel et notre marche. Voilà les deux mots que Paul utilise. Mais qu'est-ce qu'ils signifient, ces deux mots? Mais en fait, ce verset, il est situé à un verset vraiment stratégique dans l'ensemble de la lettre qu'il écrit aux Éphésiens. Alors, peut-être que vous le savez, mais le découpage en chapitres, il ne date pas de l'époque où on a écrit la Bible, il date de bien plus tard. C'est au Moyen-Âge que des moines ont décidé, c'est plus simple, de chercher une référence avec un chapitre et un verset. Donc, on a découpé la Bible en chapitres. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans la lettre aux Éphésiens, il y a 6 chapitres, 3 avant notre verset et 3 après. Donc, c'est vraiment le pivot, la charnière de l'ensemble de la lettre. Quand il parle de notre appel, en fait, Paul résume en un seul mot tout ce qu'il vient de dire pendant 3 chapitres. Et quand il parle de notre marche, il va résumer en un mot tout ce dont il va parler jusqu'à la fin de sa lettre. Les 3 premiers chapitres de la lettre parlent de notre appel, les 3 derniers parlent de notre marche. Et le verset qu'on lit ce matin, il est pile à la jonction entre les deux. Alors, de quoi parle Paul dans ces 6 chapitres? On va faire un bref survol, on va ranger quelques instants le microscope et on va sortir des jumelles pour survoler un petit peu l'épître de Paul aux Éphésiens. Notre appel. L'épître commence par un texte sur lequel on a médité déjà au mois de décembre. Si vous étiez présent lorsque le 19 décembre, on a parlé du premier chapitre d'Éphésiens et de ce cadeau en majuscule. Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés, Dieu nous a délivrés, Dieu nous a éclairés, Dieu nous a acquis, Dieu nous a unis à Christ. C-A-D-E-A-U, juste avant Noël, ça tombait bien. Le cadeau de Dieu pour nous. Paul ensuite va souligner au chapitre 2 que Dieu nous a fait passer de la mort à la vie, et par grâce. Puis, il insiste sur le fait que Jésus a abattu le mur qui séparait les juifs et les non-juifs, que désormais les non-juifs ont aussi part aux promesses de Dieu, qu'ils sont unis dans le même corps. Et enfin, au chapitre 3, il nous parle de l'amour infini de Dieu pour nous. Voilà pour notre appel, voilà pour notre vocation. Et dans les 3 derniers chapitres, on trouve des encouragements, des exhortations de Paul à vivre concrètement l'unité dans l'Église, à expérimenter l'amour du Christ dans une vie transformée et l'amour des autres. Une vie, il utilise le terme de vivre dans la lumière. Et cette marche dans l'amour, dans la lumière, eh bien, elle se vit dans le couple, elle se vit dans la famille, elle se vit sur le lieu de travail. Et Paul termine sa lettre en encourageant les chrétiens à utiliser les armes spirituelles, c'est la fameuse image de l'armure, et aussi à développer une vie de prière. Voilà pour notre marche, pour notre vie quotidienne, notre appel et notre marche. On a d'un côté, en schématisons un petit peu ce que Dieu fait pour nous et notre réponse à l'action de Dieu. La dimension verticale de nos vies et la dimension horizontale. Notre être intérieur et notre vie dans le monde. Nos privilèges et nos responsabilités. L'Église dans le monde céleste, l'Église sur la terre. Ce que nous croyons à propos de Dieu et notre attitude. Notre appel et notre marche. Et entre ces deux ensembles, si on fait un peu de réflexion sur nous-mêmes, sur nos vies, en tout cas pour ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour me rendre compte que ça ne colle pas toujours, qu'il y a des disjonctions, des cassures, des fractures. Et ben, quand on a une fracture, on boite sur le chemin, notre vie chrétienne est douloureuse, on a du mal à grandir. Et Paul a le souci, dans ce verset, de réunir ces deux ensembles, de les faire tenir ensemble, de montrer que dans la vie chrétienne, ces deux éléments doivent être intégrés pleinement. Alors, comment est-ce que Paul procède pour réduire cette fracture? Alors, on va ressortir le microscope et on va regarder deux mots. On a déjà parlé de l'appel et de la marche. Et dans ce verset, il y a deux mots qui sont importants. Deux mots qui commencent avec la lettre D. Digne et donc. Le mot digne, tout d'abord, c'est ce mot-là que Paul utilise pour faire le lien entre la marche et l'appel. On relit le verset « Marchez d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. » Marchez d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. Et le mot grec, on va faire un tout petit peu de grec, et là je regarde Mathilde, qui est là-haut. Est-ce que tu peux nous lire ce mot-là? Axios, ouais. C'est ce mot-là qu'on a trouvé que Paul a utilisé pour dire digne. Il faut que votre marche soit axios par rapport à votre appel. Et axios, en fait, c'est un terme technique qu'on utilisait quand on voulait peser un produit, quand on voulait peser au marché, par exemple. On utilise une balance. Alors aujourd'hui, on a, je pense, tous dans nos cuisines ou dans notre salle de bain une balance numérique qui nous indique tout de suite le poids, ou bien avec une aiguille. Mais peut-être que, je suis sûr, même certains d'entre vous ont connu ces balances-là, ou les ont peut-être même utilisées. C'était pas juste de la déco, c'était donc avec deux plateaux, et puis des poids en laiton, ou des fois ça peut être dans un autre métal. Donc on va peser d'un côté ce qu'on souhaite peser, on va le poser. Et ensuite, on va rajouter des poids jusqu'à ce que les deux balances soient à l'équilibre. Et quand elles sont à l'équilibre, le mot grec, c'est axios. Quand elles sont à l'équilibre, elles sont axios. Dans ce verset, Paul exhorte, d'autres traductions disent, Paul supplie, Paul demande instamment que la vie des chrétiens d'Éphèse soit à l'équilibre avec l'appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Que la marche et l'appel se correspondent, qu'ils matchent, comme on dirait. Et je trouve cette image intéressante parce que c'est non seulement dire avoir de la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça pourrait être ultra résumé, mais je pense que ça va plus loin que ça. Il y a une valeur équivalente, un poids équivalent qui doit être donné à ces deux ensembles. Parce qu'il est possible qu'il y ait des déséquilibres. Il est possible que dans notre vie, on va mettre plus le poids d'un côté que de l'autre. On peut mettre le poids davantage sur le premier plateau, celui de notre appel, qui nous pousse à nous émerveiller de ce que Dieu a fait, à nous émerveiller de ce que Dieu continue à faire, à nourrir cette relation avec notre Dieu créateur, qui nous a choisis, qui nous a sauvés, à le louer, à le célébrer. Et peut-être à considérer que la mise en œuvre pratique, quotidienne, c'est un petit peu moins important, voire beaucoup moins important. En tout cas, c'est secondaire. Parce qu'il faut bien se dire que la mise en œuvre de notre appel, notre marche chrétienne, est parfois compliquée. Cette marche, elle peut être semée d'embûches, d'obstacles. Le premier obstacle, c'est moi-même. Mon mauvais caractère, mes mauvaises habitudes, le péché qui continue à rester là. Puis après, il y a les autres. Le conjoint, les enfants, les parents, le patron, les collègues, les voisins, le conducteur devant, le conducteur derrière, les autorités. Dans une situation de crise comme on vit, voilà, on sent que les... Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et veiller à sa marche chrétienne, ça peut sembler parfois vraiment très compliqué. Tous ces impératifs qu'on trouve dans la deuxième partie de l'épître, « Ne faites pas ci, rejetez ceci, soyez comme cela. » Waouh, ça fait beaucoup, hein. Alors on se réfugie dans... On se réconforte auprès de Dieu. Et c'est bien, Paul nous dit, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment, en délaissant ou en minorant notre marche quotidienne, pratique au quotidien, avec les autres. Je pense que, pour ma part, c'est sans doute un danger auquel je fais face, moi, dans ma vie chrétienne. Plus que celui dont je vous parlerai après. Ça m'est déjà arrivé hein, d'être agacé intérieurement quand je me fais interrompre par mes enfants, par exemple, quand je suis en train de préparer une prédication ou en train de lire un livre spirituel. Et après, je me dis, mais se rendre disponible, savoir être, se laisser déranger, entre guillemets, ça, c'est une preuve d'amour considérable. Et il faut savoir mettre entre parenthèses parfois des choses que l'on fait en se disant, ben, ça, c'est spirituel, et puis, ben, se laisser déranger, non, ça, c'est pas spirituel. Non, en fait, si. Les deux sont importants. Les deux sont importants. Et je pense que il y a des exceptions, bien sûr, mais la tradition plutôt évangélique de l'Église chrétienne a plutôt ce danger-là, de mettre trop l'accent sur l'aspect spirituel, de délaisser un peu l'aspect plus pratique de mise en œuvre. C'est pas systématique, bien sûr, mais je pense que c'est un danger qui doit nous par rapport auquel on doit être vigilant. Et à l'inverse, on peut aussi mettre plus de poids dans le second plateau, celui de notre marche. On met une énergie considérable dans notre engagement, dans nos activités, au sein de l'Église, mais aussi en dehors de l'Église, dans nos relations, dans le service des autres. Quitte parfois à oublier ce qui nous pousse, en fait, à mener de telles actions. Parce que, au final, ben, dans ces actions, on trouve notre valeur, elle nous valorise, on trouve peut-être un sens, en fait, à notre vie à travers ces actions. Et si on pousse cette tendance à son extrême, en fait, c'est plutôt, dans ce cas, une vie de bonnes actions, vécue sincèrement, hein, pas de manière hypocrite, mais simplement déconnectée progressivement de la source de cette vie bonne, de cette vie qui plaît à Dieu. Le lien avec l'appel initial a disparu. Alors, on peut l'observer parfois dans certaines institutions qui, œuvres chrétiennes qui, au fil des décennies, en fait, ont perdu l'ancrage spirituel qui était le leur au départ et qui, du coup, ne se concentrent plus que sur les aspects sociaux, médicaux. Je ne porte pas de jugement, hein, il y a plein de facteurs qui peuvent entraîner cela. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est peut-être un danger qui guette plus des églises un peu plus historiques, plus institutionnel, mais encore une fois, c'est un danger dont il faut avoir conscience. Rechercher l'équilibre, un poids égal entre notre appel et notre marche. Alors on pourrait se dire, mais si tout est une question d'équilibre, eh bien dans ce cas, on n'a qu'à prendre les plus petits poids là, hop, on met un petit peu d'adoration, de louange, et on essaye un petit peu de mettre les choses... De vivre, voilà, de faire quelques bonnes actions dans notre vie. Et dans ce cas, la balance, elle est à l'équilibre, si c'est ça le but. Est-ce que ça pourrait marcher? Ben non. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que ce n'est pas nous qui décidons le poids qui est mis dans la première balance. C'est Dieu. Et on peut dire que Dieu a mis le paquet. Dans les chapitres 1 à 3, Paul nous rappelle tout ce que Dieu a accompli pour nous. Parfaitement, qu'il nous bénit de manière extraordinaire. Donc le premier plateau, lui, il est au maximum de son poids. Et on peut, en regardant l'autre plateau, celui de notre marche, se dire, mais comment est-ce que moi je vais pouvoir contrebalancer le poids que Dieu, cet appel extraordinaire que Dieu m'a fait? Comment est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre tout ce que l'apôtre Paul, tout ce à quoi il nous appelle à vivre dans le couple, dans la famille, au travail, entre frères et sœurs, dans l'Église? Est-ce que les exigences ne sont pas trop élevées? Ou alors est-ce que ce serait réservé à certaines personnes, ceux qui sont les plus spirituels d'entre nous, qui vont y arriver? Et je pense que la réponse à cette question, à cette interrogation, de se dire, mais est-ce que c'est vraiment réaliste de pouvoir être à l'équilibre avec ce que Dieu nous a apporté, elle se trouve en partie dans le deuxième mot. Le premier, c'était digne, et le deuxième, c'est le mot donc. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Petite question pour ceux qui passent le bac de français, mais je crois qu'il y a de nouveau que Mathilde qui est là. Quelle est la nature grammaticale du mot donc ? On n'a pas préparé, hein ? Une conjonction de coordination, ouais. Et qui sert à exprimer quoi ? La conséquence. C'est parfait, c'est exactement ce qui est... c'est exactement ça, et on n'a pas préparé. Une conjonction de coordination, donc qui relie deux choses, et qui exprime la conséquence. Ce petit mot, il a une importance capitale, en fait, dans ce verset. Paul nous dit ici quel doit être le mobile, la motivation centrale pour une vie transformée, pour une vie d'obéissance à Christ, pour une marche, pour la marche telle qu'il nous la présente dans les chapitres 4, 5 et 6. Qu'est-ce qui nous motive à obéir à Christ, à mettre du poids de l'autre côté de la balance, pour essayer d'être à l'équilibre? La routine, la force de l'habitude. Une autre motivation peut aussi être la peur que Dieu me punisse si je ne pardonne pas à tel frère, la peur que Dieu me punisse là tout de suite, ou qu'il me punisse plus tard lors du jugement. Ou bien est-ce que c'est parce que c'est ce qui est attendu de tout bon chrétien? Quand on est bon chrétien, ben oui, ben alors on pardonne. Voilà. Paul ici nous invite à passer notre motivation au scanner divin. Et à avoir pour motivation centrale ce dont il vient de parler. Le fameux « donc », il se rapporte, c'est la conséquence de tout ce qui vient d'être dit. Être motivé par ce que Dieu a accompli pour nous en Christ. Paul nous encourage à méditer sur ces vérités fondamentales, sur ce cadeau, sur cette unité entre juifs et non-juifs, sur la vie qu'il nous donne, sur son amour immense. Méditer sur ces vérités, y revenir régulièrement, les garder dans notre cœur, les intégrer à notre vision du monde. Et en fait, chacune de ces vérités, c'est comme un tremplin qui nous permet ensuite de marcher. Et donc pour revenir à la question de l'encouragement, du découragement, de l'intimidation devant, de se dire mais comment est-ce que je vais pouvoir avoir une balance à l'équilibre dans ma vie? C'est dans l'œuvre de Dieu pour nous qu'on trouve la force qui nous pousse en avant. Dans un commentaire récent, Dominique Anger utilise l'image suivante que je trouve très parlante. Il dit que dans les chapitres 1 à 3, Paul confectionne des ailes qui, dans les chapitres 4 à 6, il nous encourage à voler, à utiliser ses ailes. Il ne nous dit pas simplement « fais ceci, ne faites pas cela ». Et c'est vrai que quand on lit les chapitres 4 à 6, on trouve un certain nombre de verbes à l'impératif. On nous dit ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et si on ne regarde que ça, on peut être vraiment découragé. Mais là, Paul nous dit « mais ok, mais regardez, ne vous arrêtez pas à ça, mais regardez tout ce que je vous ai dit avant. Ne regardez pas que les impératifs, regardez tout ce que je vous ai dit avant, ce que je vous ai dit avant, ce que Dieu a fait pour vous, ben ce sont en fait, c'est là que vous allez puiser la force pour vivre une vie d'obéissance, une vie conforme à celle à notre appel. Axios, digne, les deux balances doivent avoir un poids d'équilibre. Elles doivent se correspondre. C'est alors qu'on peut marcher sans boiter, sans souffrance liée à une fracture entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. On est en chemin, on grandit vers la maturité. Donc, le deuxième mot, les deux plateaux ne sont pas égaux. Ils sont à l'équilibre, mais ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas de même nature. Il y en a un qui précède l'autre. L'appel précède la marche. On marche parce qu'on a été appelé, et pas l'inverse. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui prend l'initiative décisive. C'est Dieu qui met tout son poids dans la balance. Pour facile expression, elle a tout son sens. C'est Dieu qui met tout son poids dans la balance pour nous mettre en route sur le chemin de la vie. Et c'est la grandeur de ce que Dieu a accompli pour nous qui nous pousse, qui nous motive à vivre à l'équilibre et à mettre à notre tour tout notre poids, toute notre vie dans la balance. Dans cette marche, on peut compter sur l'appui de Dieu, et on l'a dit dans ce que Sophie nous a partagé. Nous ne sommes pas seuls dans notre marche. Dieu est présent. Dieu fait pousser dans un environnement hostile et froid. Il fait naître la vie. Il nous appelle à la vie. Dieu est présent en nous par son esprit. C'est ce qu'on a aussi voulu exprimer par le partage de la Sainte Cène. Je ne suis pas seul. Dieu est présent pour m'aider dans cette marche. Je ne suis pas seul non plus parce que je ne suis pas seul à avoir été appelé et je ne suis pas seul à marcher. C'est avec cette dimension collective que j'aimerais conclure. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Si on regarde que ce verset, et même en ayant un peu fait ce survol de l'épître aux Éphésiens, on ne se rend pas forcément compte que dans cette lettre, Paul parle beaucoup de l'Église. Et il présente la communauté des croyants comme étant un cadeau de Dieu, et le cadre dans lequel on peut grandir et devenir des chrétiens adultes. On n'est pas appelé individuellement. Dieu appelle chaque jour des milliers de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, à rejoindre cette communauté. Je ne suis pas seul dans mon appel, et je ne suis pas seul dans ma marche. Cette marche, ce n'est pas un exercice solitaire que je vis seul face à Dieu, seul face à la Bible. Et nous sommes tous ici, ce matin, ceux qui sont rassemblés, ceux qui n'ont pas pu venir. En fait, nous sommes tous des pèlerins que Dieu a réunis par son appel. Nous sommes différents, mais nous sommes aussi unis dans cette compagnie de voyageurs qu'on appelle l'Église. Et c'est en compagnie les uns des autres, de tous ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, que je vais pouvoir grandir. Ma réponse à l'appel de Dieu, elle est individuelle. Ce n'est pas mes parents qui ont pris la décision pour moi, qui ont répondu à ma place. Ce n'est pas d'autres qui répondent à ma place. Donc ma réponse à l'appel est individuelle. Mais ma marche, elle, elle est en communauté, avec les autres frères et sœurs. En ce début de nouvelle année, je vous encourage à chercher à garder à l'esprit cette exhortation que je relis pour une dernière fois. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelé. Appuyons-nous sur ce que Dieu a accompli, sur ce qu'il nous donne, sur ses cadeaux, pour vivre une marche en équilibre avec notre appel. Et comptons sur l'aide de Dieu et sur l'aide de nos frères et sœurs. Je vous invite à prier. Père de tous et qui règne sur tous, tu nous as appelés à suivre ton Fils Jésus-Christ. Cet appel personnel, nous y répondons par notre marche, par notre vie. Nous constatons que trop souvent encore, notre attitude ne correspond pas à l'appel que nous avons reçu. Père, aide-nous à nous conduire d'une manière digne de notre appel. Renforce dans notre cœur ces vérités que nous croyons, que tu nous as choisis, que tu nous as aimés, que tu nous as délivrés, que tu nous as éclairés, que tu nous as acquis, que tu nous as unis à Christ. Que chacune de ces vérités soit une source de motivation, un tremplin pour une marche qui t'honore, pour une vie d'obéissance. Nous te remercions de nous aider, de venir au secours de notre faiblesse par ton Saint-Esprit et aussi par la communauté que nous formons dans laquelle tu nous as placés. En Jésus, notre seul Seigneur. Amen.